Aujourd'hui, Radio Présence déplace son micro pour partir à la rencontre de Monsieur Aurélien Pradier, député de la première circonscription du Lot. Nous allons aborder des sujets brûlants tels que la carte scolaire dans le Lot et la baisse des effectifs d'enseignants, ainsi qu'une tribune que vous avez co-signée avec notamment les ex-ministres Jean-Louis Borloo et Arnaud Montebourg, ou encore la journaliste Natacha Polony et relayée par le Figaro. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Alors, priorité au local, comme je le disais en amont, la carte scolaire, elle fait grincer des dents dans notre département et ce n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, nos classes voient leur nombre d'élèves dégringoler et les postes de professeurs suivent. Néanmoins, vous avez pu limiter la casse grâce au protocole départemental. Aujourd'hui, il s'arrête. Est-ce qu'il y a un nouveau protocole qui va être mis en place et est-ce que la réunion du 17 avril dernier, où vous avez appelé les maires, les conseillers municipaux et les représentants des parents d'élèves, a porté ses fruits?
C'est un sujet qui est très important, évidemment, parce qu'il concerne l'avenir de notre département, l'avenir de nos enfants, mais aussi l'avenir de l'attractivité d'un territoire comme le nôtre. Vous comprenez bien que si on, dans une période où on perd la démographie, si on s'acharne à affaiblir nos services publics et en particulier notre école, on ne va faire qu'accélérer la baisse démographique puisqu'on sera de moins en moins attractif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de laisser le sujet sur la table sans se mobiliser. Ça a été l'objet de cette mobilisation en rappelant, comme vous l'avez dit, que par le passé, nous avons eu des réussites. On a eu des baisses démographiques très importantes il y a quelques années. On avait réussi à obtenir un protocole d'accord avec l'État qui nous a préservé pendant 3 années, qu'on avait négocié âprement à l'époque. Et cette année, j'ai beaucoup dénoncé le fait que nous n'ayons pas ce protocole-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si on obtiendra gain de cause. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura tout fait pour. Et que si nous n'obtenons pas tout ce que nous souhaitons pour cette année, tout ce qu'on aura fait là va aussi permettre pour l'année prochaine de préserver la situation. Et je sais que cette idée du protocole comporte beaucoup, la mobilisation que j'ai portée avec beaucoup d'autres élus, elle va finir par porter ses fruits, j'en suis absolument convaincu, parce que le sujet est trop important pour n'avoir qu'une logique bêtement comptable.
Alors cette baisse d'effectifs, elle correspond quand même à une réalité. Sur le terrain, en rentrée 2024 pour le premier degré dans le Lot, nous étions à 11 679 élèves et à la rentrée 2025, il y avait 11 466, ce qui fait moins 213 élèves en un an. Ce qui vous déplaît en réalité, ce n'est pas que les postes d'enseignants soient supprimés, c'est qu'ils le soient au mauvais endroit, c'est ça ?
Oui, ce que je regrette, c'est pas la baisse de la démographie, c'est une évidence, je suis pas idiot, chacun comprend que quand on a moins d'élèves, il y a forcément moins de postes. Non, ce que je dénonce, c'est le fait qu'il n'y a aucune stratégie départementale. Et qu'en fait, on prend des postes ici ou là, là où ça nous arrange le plus, là où c'est le plus facile, on sait pas très bien quelle est la logique qui commande à tout cela, et au final, on va perdre tout le maillage départemental, qui était pourtant le maillage le plus fondamental que nous devions avoir. Et donc ce que j'ai dénoncé, que je continue à dénoncer, c'est la gestion à la petite semaine, parce que c'est une gestion à la petite semaine. Et puis l'absence totale de concertation, qui aurait permis, je ne sais pas si on aurait permis de sauver des postes, mais en tous les cas, elle aurait permis d'avoir une logique. Vous vous rendez compte qu'il y a des communes dans lesquelles, les 2 années précédentes, nous avons investi de l'argent public pour rénover des écoles, et ce sont des écoles dans lesquelles on va avoir des fermetures de classe l'année d'après. Tout ça est totalement absurde. Et c'est cette nécessité d'une réflexion départementale, d'une vraie stratégie, que je pousse.
Vous dénoncez une logique comptable froide et complètement déconnectée de la réalité, de la DASEN. Pour la rentrée 2026, que craignez-vous ? Alors vous m'avez dit que ça allait être préservé pour 2026.
Ce que je crains, c'est une situation où on va avoir des écoles très affaiblies, parce que quand vous supprimez des classes en nombre dans certaines écoles, vous les réduisez à peau de chagrin et vous les affaiblissez. Et ce que je crains aussi, c'est la perte d'attractivité. Parce que ce qui fait la force d'un département comme le nôtre, c'est que des personnes nouvelles qui s'installent savent qu'elles vont avoir de bonnes conditions d'éducation pour leurs enfants, parce qu'il y a des bons encadrements, il y a des écoles de proximité, qu'on n'est pas dans des usines, et que donc ça fait une vraie différence. Si on continue à affaiblir, on va avoir des zones blanches, quasiment, des zones de très faible attractivité. Et au final, je crains que l'on perde l'essentiel de ce qui fait le maillage éducatif.
Vous avez parlé aussi d'une mascarade de consultation avec la DASEN. Qu'est-ce qui manque concrètement dans le dialogue avec l'éducation nationale ?
Il manque tout. Vous vous rendez compte qu'il n'y a eu aucune concertation véritable. Alors, il y a le mot de concertation, on parle de concertation, mais à part un coup de fil qui est passé au maire pour les prévenir que l'école va, que la classe va fermer, c'est tout. Il n'y a aucune discussion. Moi, j'ai demandé à ce qu'une réunion départementale ait lieu avec tous les élus concernés. Ça a été refusé. Vous vous rendez compte qu'on n'est même pas foutu d'organiser une réunion avec tous les élus départementaux pour caler une stratégie. Et donc, il y a une gestion vraiment totalement sourde de la situation. Moi, j'ai eu une consultation une fois, mais une consultation au téléphone, où j'ai dit que j'étais opposé aux fermetures, et puis elle m'a dit qu'elle y était favorable, et puis voilà, c'est tout. Enfin, tout ça, c'est une blague, quoi. C'est une mauvaise blague. Et avec les maires, c'est pareil. Vous avez des maires qui ont été nouvellement élus, il y a quelques semaines, ils n'ont jamais eu la moindre information de la DAZN, de la responsable de l'éducation nationale, sauf pour leur dire « ça va fermer ». Et vous voyez, c'est cette idée que l'État serait plus intelligent que les élus. Surtout qu'on a eu la démonstration depuis quelques années que c'était les élus qui portaient une vraie stratégie. On nous parle beaucoup de regroupement d'écoles. Il y a eu des regroupements d'écoles. Et souvent, ça a bien fonctionné. Alors, c'est pas une règle intangible, mais vous avez des collectivités dans lesquelles les maires ont accepté eux-mêmes de regrouper les écoles. Ils sont pas bornés. Eh bien, c'est les maires qui portent la stratégie. Et quand je vois cette absence de concertation, je trouve ça absolument déplorable.
Combien de postes vont être supprimés si cette logique est adoptée pour la rentrée 2026, à peu près?
Alors, pour l'instant, on sait pas exactement. Je veux dire pourquoi, parce qu'il y a des chiffres qui sont annoncés. Mais dans ces chiffres, vous avez aussi des postes de remplaçants. Dans les créations de postes, il y a des postes de remplaçants dont on sait en réalité que c'est des remplaçants fictifs, que certains vont remplacer durablement des enseignants. Donc l'équilibre global, on le connaît pas, on le connaît mal. Et c'est d'ailleurs un des sujets, hein, celui du remplacement. Dans un département comme l'autre, on a un taux de remplacement des enseignants qui est mauvais, ce qui fait qu'on a beaucoup de situations dans lesquelles les élèves peuvent passer plusieurs semaines sans avoir leur enseignant, qui nécessite des réorganisations, des aménagements. Tout ça fait partie de l'affaiblissement en général.
Quelle est la position de la majorité de ses alliés à l'Assemblée nationale sur ces suppressions de postes dans les départements ruraux?
Moi, j'ai pas beaucoup entendu mes collègues députés sur cette question-là. Le budget a été adopté en 49.3, mais il contenait pas en réalité le détail des suppressions de postes éventuelles. Et je vois que sur ce sujet, tout le monde se planque. Il y a que beaucoup de territoires ou d'élus des territoires essaient de pas faire trop de bruit en se disant qu'il y a beaucoup de quoi apprendre. Moi, je pense que quand on est député, notre devoir, c'est de monter au créneau.
Alors, nous allons changer de sujet, monsieur le député. Parlons maintenant de priorisation de la production française dans la commande publique. Pour rappel, vous avez cosigné une tribune préconisant un référendum sur une préférence industrielle française. Est-ce que vous pensez que cette requête sera reçue favorablement par le président de la République, seul habilité à appeler à ce référendum?
On verra. Ce qui est sûr, c'est que la tribune qui a été signée par des anciens ministres de droite, de gauche, des responsables politiques très différents, elle dit une chose, c'est que notre pays ne peut pas redevenir un grand pays s'il ne retrouve pas une souveraineté de production. Alors ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour l'industrie. On ne peut pas être ultra dépendant de tous les autres pays du monde. D'ailleurs, on le voit dans les périodes de crise géopolitique. Tout ça a des conséquences extrêmement dures sur notre vie quotidienne. La commande publique, c'est un point important, parce que plusieurs milliards d'euros sont consacrés chaque année à de la commande publique. Or aujourd'hui, on s'empêche de donner une priorité à la production nationale. Et il y a deux volets dans cette réflexion-là. La première, c'est que pour donner la priorité à la production nationale, encore faut-il produire. Donc le premier sujet, c'est de lancer un appel politique en disant « nous ne pouvons pas rester une nation de consommateurs, nous devons redevenir une nation de producteurs ». Puis le deuxième sujet, c'est en effet de modifier les règles. Et les règles, aujourd'hui, elles ne permettent pas de donner une priorité nationale sur les productions, alors que ça peut être un moteur extrêmement fort. Est-ce que le président de la République nous entendra? J'en sais rien, il est à quelques mois de sa retraite, je suis pas sûr qu'il entende beaucoup en ce moment, mais ça pose un jalon dans le débat politique, et ça c'est important.
Est-ce qu'on pourrait parler de priorisation européenne d'abord, avant de parler de priorisation française?
Oui, je pense qu'il faut commencer par la priorisation nationale, il faut pas avoir peur de ce mot-là. Vous savez, les Allemands le font beaucoup, hein. Nous on est les plus dindons de la farce dans cette histoire. Les Espagnols savent le faire, les Italiens savent le faire, et nous, on est toujours un peu ceux sur qui on marche. Donc je pense qu'on peut tout à fait parler de priorité nationale sur les productions, à la condition de reproduire, pour créer un électrochoc. On peut aussi parler de priorité européenne, mais ça commence aussi par les nations.
Qu'est-ce que ça impliquerait de nationaliser la production dans la commande publique, concrètement, pour les Français?
Concrètement, ça veut dire que beaucoup de ce que on voit ou on voit pas passer en commande publique, alors je vous donne deux exemples, mais ça va être les véhicules, par exemple. Les véhicules qui sont ceux des préfets, des fonctionnaires, les véhicules de fonction des uns et des autres. Vous avez parfois les véhicules qui sont totalement étrangers. Bon, on dirait non, c'est priorité à la production nationale. Alors ça peut avoir un surcoût, pas toujours d'ailleurs, moins qu'on ne le pense. Et quand ça a un surcoût, j'allais dire, c'est quelque chose que la commande publique peut assumer. C'est pas le portefeuille direct des Français, et c'est aussi une manière de mettre du carburant dans le moteur de la production. En termes de coûts, on a des productions nationales qui peuvent être plus coûteuses que des productions étrangères. Mais c'est pas toujours vrai d'ailleurs. Parfois elles sont plus durables, on peut mieux les réparer, enfin oui, il y a des conséquences indirectes qui font que ce qu'on perd sur le court terme, on le gagne sur du moyen et du long terme. Et puis la commande publique, ça sert à ça. Si demain, l'argent public et la commande publique permettent de rebâtir une industrie dans le pays, les Français y seront gagnants, parce que c'est autant de richesses qu'on va produire dans le pays, autant de cotisations sociales pour financer nos retraites, etc., etc.
Monsieur le député Aurélien Pradié, merci de votre accueil et des réponses que vous avez apportées à nos auditeurs sur les projets que vous portez. À bientôt.
Merci beaucoup, avec plaisir.